liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 37, année 2015. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Bien, nous sommes réunis tous les trois pour une nouvelle revue de presse. Manu, à toi de jouer.
Bah alors, la rentrée, encore. 8 articles principaux. Munich et son déploiement de logiciels libres. La culture et les savoirs qui seraient favorisés. L'Argentin le plus détesté d'Hollywood. Skill 2015 au Canada. L'accès à Internet et les examens universitaires. Mais en fait, c'est des sujets plus intéressants sur l'éducation. Le gouvernement britannique et le libre. Larry Lessig, futur président des États-Unis, bien sûr, et gros soucis sur le Wi-Fi et aux États-Unis, et peut-être même en Europe où il y a des problèmes légaux.
Le MagIT, comment Munich gère les déploiements et l'administration de son OS Linux. Un article de Cyril Chausson. Donc on le rappelle, Munich est une grande ville allemande qui a fait son propre système d'exploitation pour passer entièrement au logiciel libre. Et on en a pas mal parlé ces derniers temps parce qu'il y a eu un changement de majorité. Et les nouveaux élus ont dit « Ouais, nous on n'aime pas trop ça les logiciels libres, on préfère Windows ». Mais manifestement c'est un peu tard pour faire marche arrière. Et là on a plus de détails sur le déploiement.
Voilà, là c'est vraiment un truc un peu technique en fait. Hein, où la DSI allemande parle et expose un peu les différents problèmes auxquels ils ont pu être confrontés au passage au libre, comment ils ont pu déployer leur propre distribution Linux, comment ils ont géré le problème aussi de l'hétérogénéité du parc, où il y a énormément de machines qui sont de plein de versions différentes.
Oui, sachant qu'ils parlent de 18 000 machines et ils en envisagent 24 000, donc rien que le nombre c'est énorme, et effectivement il doit y avoir des vieux PC dans l'eau à côté de trucs tout neufs, ouais. Tout brillants.
Donc ça fait un peu une rétrospective de comment il faut s'y prendre en fait si on veut passer au libre, parce que c'est vrai que ça se fait pas forcément comme ça en claquant des doigts.
Ça a l'air de marcher hein, pour le
mais
coup.
Là, ça a l'air de marcher, ils ont l'air d'avoir bien fait leur truc. Ils ont beaucoup contribué en reversant les patchs ou toutes les problématiques sur lesquelles ils sont tombés. Ils l'ont reversé à la communauté, donc ça peut donner des idées à d'autres.
En plus, c'est intéressant pour eux parce que ça évite d'avoir à les repasser à chaque fois qu'ils vont faire des mises à jour. Ce sera directement intégré dans le projet initial.
Au final, ça a bien marché. Il faudrait peut-être que d'autres pays se mettent à regarder
villes,
de ce côté-là.
Hein, d'autres villes se mettent à les aider parce que c'est quand on est plusieurs qu'on peut vraiment mettre en commun et s'aider soi-même au mieux.
On en parlera tout à l'heure, hein, mais les Anglais ont l'air plutôt tenté. Lemonde.fr, favorisons la libre diffusion de la culture et des savoirs. C'est une tribune collective dans laquelle on trouve des gens qui m'ont un petit peu étonné vu le contenu de l'article. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce truc, hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
Alors, en fait, faut le remettre aussi un peu dans le contexte. Il y a eu un bouquin, en fait, qui a été publié par les éditeurs cette semaine, qui fait un peu en disant que gratuit, c'était du vol. Et donc, cet article-là vient contre ce bouquin-là, et donc, ça a devenu une tribune et une pétition, en fait, contre ce bouquin-là.
Ils évoquent les notions de bien commun informationnel. Nous, on aime plutôt pas mal. Là, en fait, hein.
Oh, on adore, tu rigoles, on est vraiment dedans pas mal. Et effectivement, ils demandent à ce que les institutions, les lois évoluent mieux pour protéger tous ces domaines de connaissances sur lesquels il y a des gens qui ont des visées aujourd'hui. Ils aimeraient bien faire de la copie fraude, hein, c'est ce qu'ils mettent en avant. Placer un droit d'auteur sur des choses qui sont pourtant dans le domaine public, c'est de la copie fraude. Et nous, ça, on déteste.
Les exemples donnés sont pas mal. Hein. Par exemple, ils donnent l'exemple des grottes de Lascaux. Parce qu'ils ont pris des photos de la grotte de Lascaux, ils se revendiquent droit d'auteur sur la grotte ou sur les peintures rupestres.
Il a été 17 000 ans, on peut supposer que...
L'auteur doit être mort quand même, quoi.
Oui, depuis un certain temps, et puis il va falloir en voir encore quelques évolutions législatives pour qu'on puisse avoir du droit d'auteur jusqu'à 17 000 ans après la mort.
Aujourd'hui, c'est normalement 70 ans. Voilà. Donc ils disent, parce qu'on a pris une photo, ça devient notre œuvre, notre reproduction d'une œuvre, et donc d'avoir des droits d'auteur dessus, etc. Il y a eu aussi la BNF, en fait, la Bibliothèque Nationale de France, en numérisant les documents, disait, on devient auteur, en fait, on numérise les documents du domaine public, et on devient auteur, du coup, et ça repart pour 70 ans, alors que les œuvres originelles sont dans le domaine public depuis très très longtemps.
Alors il y a un mauvais exemple dedans. Il cite un brevet d'Amazon pour faire des photographies sur fond blanc. Je sais quand cette affaire était sortie, j'avais fouillé un petit peu. Et en fait, Amazon n'a pas breveté la photo sur fond blanc. Ils ont breveté un dispositif très précis qui leur permet de prendre des photos sur fond blanc sans avoir besoin de les retoucher pour cacher les ombres ou des choses comme ça. Donc là, on est typiquement dans un truc qui est tout à fait brevetable, c'est-à-dire c'est un procédé de fabrication qui leur permet de gagner du temps. L'idée n'est absolument pas d'interdire aux gens de prendre des photos sur fond blanc, mais de simplement dire nous, on on a une méthode meilleure que les autres, qu'on a mis au point, et on la brevette. Et donc là, pour le coup...
C'est pas un dispositif usuel, c'est pas une invention technique comme un moteur à vapeur. C'est vraiment une méthode d'usage, va savoir au niveau des brevets. Hein.
Normalement, on brevette un procédé de fabrication. Et donc là, on est vraiment dans ce truc-là. On dit, voilà, si je mets des flashs comme ci, comme ça, avec tel machin, tel angle, telle puissance, j'ai pas d'ombre. Ouais. Ça se tient. L'exemple ici, il tombe complètement à plat, parce que c'est vrai que ce truc-là avait fait pas mal de bruit et avait finalement été pas mal caricaturé par rapport à la réalité des faits. BFM TV, cet Argentin de 29 ans est l'homme le plus détesté d'Hollywood. Un article d'Olivier Lafargue. On va parler de popcorn, c'est ça ?
On va parler popcorn, voilà.
Le popcorn, le truc qui a permis au cinéma de faire beaucoup d'argent à une époque, c'est mis comme ça dans l'article. Et là, on a la photo du petit gars, ce petit gars qui est détesté, parce que il a fait Popcorn Time, un logiciel libre, et donc c'est pour ça que ça termine dans la revue de presse, et bien qui vous permet de regarder des films sur internet de manière souvent illégale, mais en tout cas de manière super pratique.
Ouais, parce qu'en fait il est parti du constat que avant, à l'époque, le torrent en fait c'était pas facile parce qu'il fallait trouver le bon film, fallait le télécharger, on n'avait pas les sous-titres, on n'avait rien de tout ça, et donc lui a fait un logiciel qui est un espèce d'annuaire, donc on a accès un peu comme Netflix, on a accès à une liste de films, les sous-titres sont là, on a tous les jaquettes, toutes les images, les résumés, enfin on est vraiment dans un Netflix. Très bien pensé.
Il n'y a pas que les films, il y a les séries, il y a les mangas, il y en a vraiment des grosses quantités.
Arrêtez, on a l'impression que vous faites l'apologie de ce service-là. Voilà. Il y a plein de trucs que je trouve très intéressants dans cet article. Premier point, c'est que ce gars-là est non pas un informaticien, mais un designer, et qu'il est allé chercher des informaticiens pour monter son projet. Donc premier point que je trouve vraiment bien, c'est que souvent dans le logiciel libre, c'est des techos qui font des trucs. Là, on a quelqu'un qui se situe vraiment du côté de l'usage et qui a mené son projet.
Ouais, je suis un peu énervé d'ailleurs, c'est un beau gosse en plus. Hein. C'est scandaleux. Je trouve ça pénible. Ouais.
Bon, tu iras pour tes prochaines vacances lui péter la gueule. Deuxième point que je trouve intéressant dans ce truc-là, c'est qu'initialement son projet n'était pas libre. Il l'a rendu libre quand il a vu que les ayants droit commençaient à lui tomber dessus et qu'il s'est dit, si je continue comme ça, c'est la prison pour moi. Donc, il l'a rendu libre une fois qu'il a été mis sous la menace. C'est-à-dire qu'initialement, je pense que le gars voulait surtout gagner de l'argent avec.
Alors, ceci dit, on va savoir exactement, il n'a pas gagné d'argent avec et ça fait aussi la différence. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'est pas en prison aujourd'hui.
Voilà. Et puis, il l'a dit, qu'il avait de toute façon eu déjà des espèces de propositions en fait. Pour de l'industrie du cinéma, il a toujours refusé.
Non, pas l'industrie du cinéma.
Non, tu confonds l'industrie des hackers et des pirates qui lui ont proposé des millions, d'après
ça, pour moi, c'est le troisième point.
Pour mettre
très
des Troyens et des saloperies dans Popcorn Time. Parce qu'a priori, c'était un logiciel complètement distribué sous le manteau. Personne ne contrôlait vraiment les origines du code source. Et donc, il aurait pu être un salaud, un enfoiré, et permettre aux autres enfoirés d'installer des logiciels pirates sur vos ordinateurs, des logiciels de contrôle à distance.
Voilà, pour moi, c'est le troisième point vachement intéressant. On y parlait de $10,000 par semaine, ce qu'on lui avait proposé, donc pour qu'il y ait des virus intégrés dans son logiciel. Et donc ça doit alerter les utilisateurs sur le fait de ne pas installer n'importe quoi sur la machine et sur l'absolue nécessité de maîtriser son informatique et que dans le logiciel libre, puisque le code est ouvert et qu'on peut revoir le code, etc., et voir comment il fonctionne, on a les moyens de se prémunir contre ce genre d'arnaque. Donc lui, il ne l'a pas fait, mais potentiellement, n'importe quel logiciel un peu bizarre, qu'on trouve sur Internet qui rend service, pourrait le faire. Et ça existe, quoi. Il y a des gens qui sont prêts à claquer $10,000 par semaine pour ça.
Mais là, en le mettant en logiciel libre, certes, on n'est pas certain qu'il n'y ait pas encore des Troyens dedans ou autre saloperie, mais il y a des gens qui peuvent vérifier et qui peuvent auditer ce code source. Normalement, on est beaucoup plus tranquille, on a moyen de vérifier.
Radio-Canada, Skill 2015, l'appropriation collective de l'informatique libre, un article de Martin Lessard.
Donc une présentation pour une semaine de différentes rencontres autour du logiciel libre au Québec. Donc des gens intéressants qui vont y aller. Et puis une introduction sur le code et le libre, avec une petite erreur dedans qui m'a fait tiquer, mais où il présente, voilà, le logiciel libre c'est quelque chose d'intéressant, pourquoi, quels sont les avantages qu'on en tire, par opposition aux propriétaires.
Donc voilà, donc c'est une annonce d'événement, ça se déroule quand d'ailleurs ? Alors en 2015 nécessairement. C'est la semaine de l'informatique libre du Québec, donc qui se déroulera du 19 au 27 septembre à Montréal.
Voilà. Et donc à noter que les Québécois ont des semaines de 9 jours.
Next Impact, l'accès à Internet bientôt autorisé dans les examens universitaires, un point d'interrogation. Un article de Xavier Berne, encore un article en point d'interrogation, ça j'aime
bien. Ouais, il y en a un paquet. c'est un rapport qui a été publié sur tout l'avenir du numérique en France. C'est vrai qu'on est un peu à la traîne par rapport au reste. Et donc il y a eu des propositions de faites, et en particulier, il propose de regarder est-ce qu'on pourrait pas autoriser l'accès à Internet pendant les examens, on a autorisé la calculatrice.
Ça c'est un peu le côté troll de l'article, c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation, tu l'as bien remarqué Luc, bien sûr. hein, tu connais les trolls, mais c'est ce qui est surtout intéressant, c'est plutôt ce qu'il y a autour de l'éducation nationale et, par exemple, du partage et des licences libres qu'on pourrait appliquer sur les cours hein, et sur les différentes ressources pédagogiques.
Voilà, l'article signale que c'est une pique plutôt en direction hein, des éditeurs de manuels et ce genre de choses, que ça pourrait les faire réagir assez fortement. L'institution qui a pondu ce rapport, c'est le Comité pour la Stratégie Nationale de l'Enseignement Supérieur, donc avec des choses assez intéressantes, assez osées. Alors, ils font quelques comparaisons internationales en disant qu'il y a d'autres pays, effectivement, où dans les examens, on a le droit à l'ordinateur, à l'accès à Internet et tout ça, et que ça viendra un jour ou l'autre, et que tant qu'on y est, autant prendre les devants et y aller maintenant.
Alors, autant se préparer, parce que c'est vrai que, comme ils disent, hein, les calculatrices, c'est déjà autorisé, pourquoi ne pas avoir accès à Internet ? Après, le problème, c'est qu'il faut changer les contenus, parce que du coup, on peut pas poser des questions uniquement sur...
C'est pour ça qu'ils les mettent en avant, voilà. Ils les mettent en avant les contenus, et ils mettent en avant l'open source, le libre, hein, c'est comme ça qu'on le traduit, et les Creative Commons, ces licences qu'on peut appliquer bien au cours, et ce qui serait vraiment intéressant, les profs, enfin, pourraient se mettre en commun et travailler en commun pour améliorer ce qu'ils proposent aux élèves, c'est quand même pas mal.
ZDNet, le gouvernement britannique, prend ses distances avec Office, un article de la rédaction. Le gouvernement britannique l'avait déjà annoncé et il persiste, il a envie de passer sur ODT, format normé Open Document Format, ODF, pardon. Oui. ODT étant le format traitement texte, tout particulièrement au sein d'ODF. Voilà, ça pose la question dont on avait parlé la semaine dernière avec cette commune italienne qui avait fait marche arrière. Évidemment, Microsoft explique que non, leur solution n'est bien moins chère que LibreOffice.
Le gouvernement britannique n'a pas l'air d'être d'accord puisqu'ils ont publié en fait, une foire aux questions où il y a une dizaine de points d'aborder et en particulier ils ont fait un chiffrage de ce que cela avait fait économiser et autres et donc ils disent non c'est beaucoup moins cher en fait d'utiliser LibreOffice que Office et donc faut arrêter de passer sur du Microsoft. Après ils ont aussi fait très attention à des points qui sont très bloquants dans les administrations, en particulier tout ce qui est macro, tout ce qui est dérive des fichiers Excel ou autres. Et donc ils ont disent bien c'est quand même ça qui est compliqué effectivement, c'est pas ISO fonctionnel, en gros on n'a pas les mêmes fonctionnalités à passer de ODT vers Excel. Mais parce qu'on faisait n'importe quoi avec de Excel et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec de l'ODT.
Et de la même façon, on l'a vu la semaine dernière, dans les calculs sur ces coûts, ils intègrent notamment des coûts de basculement qui n'interviennent qu'une fois normalement, les coûts de formation, les coûts de mise en place. Une fois que c'est en place et que notre infrastructure est adaptée, normalement, c'est amorti, quoi, hein, donc on ne peut pas comparer les deux d'une façon aussi plate. Telos, Larry Lessig de la Silicon Valley à la Maison Blanche, un article de Monique Dagneau. Donc Larry Lessig, c'est Code is Law. Hein.
C'est un peu quelqu'un qui a travaillé aussi sur les Creative Commons, qui est vraiment un technique pur et dur, et là qui se lance.
C'est un juriste.
Juriste, mais qui a fait aussi la technique. Ouais. Voilà. Donc là, il se lance dans la présidentielle à la Maison Blanche, et donc il espère devenir président un jour.
Il a un programme très simple, Manu, non ?
Ouais.
Oui, hein, il veut arriver au gouvernement et mettre en place une ou deux lois pour ensuite laisser la place au vice-président. Il y aura Clinton ou Sanders, il me semble, le deuxième, probable. Donc lui, il veut pas faire grand-chose, il veut pas avoir le pouvoir, il veut juste virer la corruption, notamment la corruption liée à l'argent, parce qu'il considère que l'argent là-bas pourrit les élections. Il a peut-être pas tort. Et par ailleurs, on sait qu'on l'aime bien, nous, parce que il s'est beaucoup défendu pour la libération des données, l'ouverture. Il avait été contre les extensions du droit d'auteur, notamment auprès de la Cour suprême américaine, donc ça avait fait grand bruit à l'époque. Malheureusement, ça n'avait pas marché, et là, on peut supposer que ça va être pareil pour la Maison Blanche. Hein.
Numérama, les firmware Wi-Fi open source, bientôt illicite, encore un point de dérogation, un article de Guillaume Champeau. Donc là, plutôt mauvaise nouvelle, ça se passe aux États-Unis encore. Donc les firmware, hein, c'est ces petits bouts de logiciels qui font tourner du matériel.
Voilà. Et là, le problème, en fait, c'est que quand on touche à du Wi-Fi, enfin les ondes radio, les choses comme ça, il y a des réglementations à respecter pour pas perturber l'aviation ou le militaire. Et le problème aujourd'hui, c'est que n'importe qui peut reflasher en fait nos box internet, nos box ADSL et autres, et faire n'importe quoi en fait avec les ondes radio. Et donc du coup ça plaît pas du tout aux autorités de régulation qui aimeraient bien verrouiller les petites boîtes pour qu'on ne puisse pas les reflasher et que du coup les constructeurs imposent des restrictions réglementaires.
Alors ce qui se passe déjà il me semble avec le GSM, hein, c'est la norme des téléphones portables qui est bloquée, on peut pas reflasher comme on veut et ça bien nous dans le logiciel libre on n'aime pas du tout parce que ça nous empêche de contrôler vraiment ce qu'on a acheté, hein. Il y a un petit bout de logiciel qui est contrôlé par quelqu'un d'autre, ça va vraiment à l'encontre de nos principes et de nos droits.
Parce que évidemment l'objectif c'est pas de faire tomber les avions mais c'est qu'on va savoir ce que fait ce petit bout de code et l'expérience montre que ce petit bout de code il peut être tout à fait nuisible puisque voilà la NSA a espionné à peu près le monde entier et que dès lors que c'est contrôlé on peut imaginer que ce bout de code soit utilisé pour contrôler les machines etc. Les constructeurs pourraient tout à fait en profiter.
Pourtant c'était des fonctionnalités qui étaient très appréciées des hackers parce que par exemple avec des décodeurs TNT on était capable de faire de l'analyse de radiofréquence du spectre de l'avionique et donc de voir tous les avions qui passaient dans le ciel avec ça. Il y en a beaucoup qui s'amusaient à ça et du coup avec du matériel bien bien moins cher que du matériel professionnel, et avec quelques bidouilles et deux bouts d'allumettes, on arrive à faire des choses assez sympas, et ben du coup, ça sera plus le cas.
Très bien, bon, on a fait le tour de cette revue de presse, merci à vous deux, on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut tout le monde.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fiévet et Nicolas Vineau.